OK, bonjour tout le monde. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes dans le cours sur la Bible, livre divin ou humain. Mon nom est Yannick Étier, je pense que je connais un peu tout le monde. On est rendu à la leçon 5. Et puis, vous pouvez trouver les notes et les pistes audio aussi sur notre site web. Et si vous le désirez, vous pouvez vous joindre aussi, ajouter votre nom à la liste d'envoi pour recevoir les notes à l'avance pour le cours. On va aller ensemble dans un mot de prière. Eh bien, Père éternel, on veut te rendre grâce pour ta sainte parole, Seigneur, ce matin, alors que je lisais ces psaumes. Seigneur, tu faisais du bien à mon âme. Tu redonnais de la vie à mon âme, Seigneur. J'avais le cœur inquiet, j'avais l'âme fatiguée. Et tu m'as fait du bien, Seigneur, parce que ta parole est vivante et ton esprit vient l'appliquer dans nos cœurs, vient nous faire du bien, vient nous convaincre, nous apaiser, nous ressourcer. Je prie, Père, de bénir ce cours qui est vraiment un cours de base, qui est un cours assez simple, mais en même temps tellement fondamental à notre marche dans la vie chrétienne, Seigneur. Ces vérités doivent devenir des convictions profondes afin qu'on puisse avec confiance, avec assurance, aller puiser dans tes saintes écritures tout ce dont nous avons besoin pour être guidés ici-bas, Seigneur, et guidés vers toi. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Alors, on arrive à la fin de la première partie du cours où je prends pour acquis, dans une certaine mesure, je prends pour acquis, je ne m'applique pas à faire la défense des Écritures, je prends pour acquis que la Bible, ce livre-là, est reconnu comme parole de Dieu. Et on regarde ce que la Bible dit sur la Bible. On regarde comment les chrétiens voient la Bible. Et dans la deuxième partie du cours, on va aller adresser des questions, des fois qu'on a nous-mêmes, hein? C'est même comme chrétiens, des fois on a des questionnements par rapport à l'inspiration des Écritures, des choses comme ça. Je pense que c'est légitime, c'est honnête. Mais aussi des questions souvent qui nous sont posées par nos contemporains. Ça va être dans la deuxième partie du cours. C'est un cours qui se termine juste avant Noël. On va regarder ensemble 1 Corinthiens 2, les versets 6 à 13. Et je vais les lire parce que ce matin, la leçon est vraiment bâtie sur ce que l'apôtre Paul déclare ici. Ce matin, on voit ensemble un des derniers attributs de la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu est nécessaire. 1 Corinthiens 2, versets 6 à 13. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits ou parmi les matures, parmi les gens sages. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Laissez-moi juste tourner directement dans le passage, on va se promener un petit peu dans ce chapitre-là. Alors, ce matin, on parle de la nécessité des Saintes Écritures. C'est un peu, ça s'explique, ça va de soi. Quelqu'un qui veut me dire, d'après vous, qu'est-ce qu'on entend par la nécessité des Écritures? Pas tout le monde en même temps. Oui, Linda. OK, la parole, c'est une nourriture de l'âme, c'est une nécessité pour vivre spirituellement, pour survivre. C'est définitivement un aspect. David. OK, donc on a besoin de la parole pour avoir une sagesse qu'on ne pourrait pas trouver par nous-mêmes ou trouver simplement en regardant la création. Stéphane, Camille. Donc, c'est la révélation que Dieu nous a donnée. Dieu se révèle comme ça. Dieu se révèle d'autres manières aussi.
La conscience, la création et la révélation
finale, spéciale. Oui, donc la parole de Dieu, c'est la révélation. C'est ce que tu allais dire, Camille? La révélation précise. Bon, c'est bon. On précise que c'est la révélation précise. Oui, deux dernières interventions, Sylvain. Vous réchauffez, là. OK. Donc, elle est nécessaire parce que Dieu, il parle avec autorité, puis on peut aller se placer sous cette autorité-là. Célia. OK. Donc, on peut avoir la foi, peut-être, sans la parole, dans une certaine mesure, mais en même temps, on va vraiment connaître la personne de Dieu à travers la parole de Dieu. C'est ça? C'est bon, c'est bon. Écoutez, vous êtes pas mal dedans, toute la gang. Toute la gang. Maintenant, c'est une question qui est importante lorsqu'on parle avec nos contemporains. D'accord? Lorsqu'on veut partager l'Évangile, on veut annoncer l'Évangile, on veut parler de Dieu aux gens, Kevin DeYoung soulève le fait que tout le monde, pratiquement tout le monde, cherche une espèce de guide dans sa vie qui va donner un sens à sa vie. La quête de sens de la vie, c'est pratiquement universel, d'accord? Même ceux qui ne sont pas en quête de sens de la vie, mais parfois c'est parce qu'ils ont conclu que c'est impossible de trouver un sens à la vie. Je parle souvent de Camus avec cette philosophie de l'absurdité de la vie, mais sa conclusion à lui, c'était que la vie n'a aucun sens. Donc, il ne faut pas y chercher un sens. La vie est absurde, il faut juste la vivre jusqu'à ce qu'on meure, d'accord? Parce qu'il croyait qu'il n'y avait pas de sens. Mais donc, ça veut dire qu'il y a eu quête de sens. Il n'en a pas trouvé. Il a conclu qu'il n'y en avait pas de sens. Donc, lui aussi a été engagé dans cette quête-là. Et donc, Kevin DeYoung fait juste soulever le fait que nos contemporains cherchent à trouver un sens à leur vie comme tous les êtres humains. Maintenant, pour bien des gens, à notre époque, Occident, Amérique du Nord, mais spécialement l'Occident, post-chrétien, post-moderne, très individualiste, souvent les gens vont chercher cette voie-là qui va les guider à l'intérieur d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Souvent, ils vont oui, écouter ce qu'il y a à l'extérieur, mais fondamentalement, l'autorité, le guide, ce qu'il va confirmer ou non, c'est une voie intérieure qu'ils cherchent à écouter. J'ai raison ou j'ai tort? Ça va? Bien souvent, ça va être le cas. J'ai trouvé ça vraiment intéressant cette semaine. C'est mon épouse qui a attiré mon attention sur un article de Mathieu Bock-Côté. Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui connaissaient Mathieu Bock-Côté? Ça vous dit quelque chose? Vous devriez lire un petit peu, aller sur son blog, c'est un sociologue, il n'est pas chrétien. Mais c'est un monsieur qui a beaucoup de bon sens souvent. Puis il fait des observations, il a un sens critique sur la société québécoise. Alors je vous lis, si vous avez les notes, vous pouvez peut-être le lire parce que il est super brillant, mais la vulgarisation, c'est pas sa cup of tea. Donc, des fois, il est un petit peu lourd, sa plume est un peu lourde à suivre. L'homme contemporain, je suis au bas de la page, n'est pas disposé à suivre d'autres consignes que celles de sa conscience. Au haut de la page 2. Mais on peut souhaiter que cette conscience ne se détourne plus complètement d'un certain humanisme chrétien, enraciné dans la finitude, je vais expliquer ça après, et ouvert à la possibilité d'une transcendance, rappelant que si tout est permis, le pire sera à peu près certain. Et donc, ce que Mathieu Bock-Côté est en train de dire, il fait une réflexion sur le fait que au Québec, la société québécoise a vraiment rejeter le catholicisme, mais en rejetant le catholicisme, il est devenu assez critique et méprisant envers toute notion chrétienne. Et ce qu'il dit, c'est que les gens aujourd'hui cherchent à écouter leur conscience à eux-mêmes, leur voix intérieure, et puis ils ne réalisent pas leurs propres limites. Alors il dit, on gagnerait certainement comme société, vous comprenez, ce n'est pas un chrétien, là, il n'est pas en train de défendre tout l'Évangile. Mais il dit, je pense qu'on gagnerait comme société à réaliser qu'on est des êtres finis, on est des êtres limités. C'est pas vrai qu'on est capable de tout saisir, de tout comprendre. On est très limité. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous, qui nous transcende, qui est au-delà de nous. Parce que si on pense qu'on est une fin en soi, puis que ma voix intérieure, c'est l'absolue vérité, à ce moment-là, tout est permis. Et probablement qu'on va avoir le pire aussi. D'accord? Ça fait pas mal de sens, tout ça, pour un chrétien même. Et donc, il est en train de parler de cette voix intérieure qui guide les gens. Il est en train d'adresser le fait que la société québécoise, les Québécois, devraient peut-être chercher aussi une voie à l'extérieur d'eux, pas juste à l'intérieur d'eux-mêmes, pour pouvoir les guider, d'accord? La doctrine de la nécessité des Saintes Écritures nous rappelle notre besoin de cette révélation extérieure à nous-mêmes pour nous guider et nous faire connaître le sens profond de la vie. Alors, quand on jase avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, il faut être attentif à cette croyance-là. S'ils adhèrent à cette croyance que leur voix intérieure est suffisante, je dois être conscient de ça dans mon dialogue avec eux. Je dois aller poser des questions. Alors, volontairement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher à les aider à remettre en question un peu leur certitude là-dessus, d'accord? Et un argument comme celui de Mathieu Bock-Côté me facilite beaucoup la vie si je veux dire, bien, si ça veut dire que chaque voix intérieure est un absolu et détermine le bien et le mal, je ne vois pas quel est le problème avec Luca Rocco Magnotta. Il a juste écouté sa voix intérieure. Et puis, alléluia, hein? Tout va bien. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, peut-être qu'il faut écouter une voix extérieure aussi. Et je vais être attentif à ça. Mon but après, c'est d'aller poser la question, est-ce qu'il y aurait une voix extérieure universelle? Est-ce qu'il y aurait un être qui nous dépasse, qui nous transcende, qui nous dirige vers la vérité? Et c'est là que je vais aller tranquillement. Est-ce que vous me suivez là-dessus, là, ou si je suis juste parlé en langue le matin? Ça va? Vous n'êtes pas dans un cours de philo au cégep super plate, là? C'est bon? C'est assez concret? OK, merci. Parce que les cours de philo, moi, je les ai tous aimés. C'est vrai. Pardon? J'ai trippé, mais j'ai eu des bons profs, faut dire. Alors, voici une citation de Kevin DeYoung au milieu de la page 2. « Celui que nous avons besoin de connaître le plus ne peut être découvert par nos propres moyens. Et cette doctrine nous donne la solution. Cet être ineffable, c'est-à-dire plus grand, plus beau que ce qu'on pourrait définir, décrire, indescriptible, on aurait pu dire, cet être indescriptible s'est fait connaître lui-même à nous par le moyen de sa parole. » Je vous ai parlé déjà de la confession de foi de Westminster. Voici comment elle explique la nécessité des Écritures. « Bien que la nature et les œuvres de la création, ainsi que la providence divine, c'est-à-dire ce que les non-croyants vont appeler le hasard ou la chance ou la destinée, pour un croyant, c'est la provision divine, c'est la providence divine, d'accord? La providence divine manifeste la bonté, la sagesse et la puissance de Dieu. Donc, dans la nature, dans ce que Dieu permet, dans ce qui se passe dans ma vie, je peux voir ça, je peux voir la bonté, la sagesse et la puissance de Dieu. Et c'est suffisant pour rendre les hommes inexcusables devant Dieu, de ne pas chercher à connaître ce Dieu-là. Malgré cela, tout ça demeure insuffisant pour pourvoir à la connaissance de Dieu, de sa volonté et nécessaire au salut. Les Saintes Écritures, nous dit cette confession de foi, sont absolument nécessaires. » Ça va? Ou pour le prendre dans les termes de Jean Calvin, « Les Écritures sont les lunettes par lesquelles nous voyons Dieu, le monde et notre propre personne avec justesse. » Sans ces lunettes-là, on voit le monde, on peut voir Dieu aussi. Camille a soulevé tantôt le mot « précis ». Ça me prend les lunettes des Saintes Écritures pour voir Dieu, l'univers et moi-même avec précision, avec justesse. Autrement, je vais voir des choses, mais c'est comme mon gars qui attend sa paire de lunettes et qui est toujours en train de se rapprocher de la télé. Oui.
Israël a arrêté d'être idolâtre quand ils ont commencé à être obligés de se réunir à chaque semaine dans un synagogue et tout, puis se faire lire les Écritures. Avant, ils n'avaient pas la parole souvent, c'est là que ça dégénérait.
C'est vrai, c'est une belle observation, ça, Karine. Karine fait juste soulever le fait que dans la période des 400 ans de silence entre la fin de l'Ancien Testament puis le Nouveau Testament, un petit peu avant, là, Le concept des synagogues est venu. Et puis donc, les Juifs ont commencé, parce qu'ils étaient maintenant dispersés un peu partout, à se rassembler pour écouter la lecture des Écritures. Et puis, l'idolâtrie s'est effacée dans leur pratique régulière à partir de ce moment-là. C'est intéressant, c'est une belle observation. Et donc, ils ont eu besoin d'entendre régulièrement la parole de Dieu. Merci. Pierre dit à Jésus, dans Jean 6, 68, « Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Alors, Jésus est la parole de Dieu, d'accord? Mais ce que Pierre est en train de dire, c'est « Je ne peux plus écouter juste ma voix, je ne peux pas aller vers n'importe qui, c'est toi qui l'as. » D'une part, il dit « pas à l'intérieur de moi, cette vérité-là, c'est toi qui l'as. Elle est à l'extérieur et c'est toi. » Et donc, les Écritures nous parlent de Jésus-Christ, d'accord? Mais Pierre reconnaissait qu'il avait entendu à l'extérieur de lui quelqu'un qui avait les paroles de la vie. Et c'est ça qu'on veut faire lorsqu'on jase avec les gens. On veut les amener à réfléchir à ça. Et c'est une conviction qui doit être très claire dans votre esprit. D'accord? Que ce qui va vous guider, ce n'est pas à l'intérieur de vous-même. C'est dans la parole de Dieu. Puis il va arriver des moments dans votre vie chrétienne où vous allez avoir des combats, vous allez avoir des luttes. Et la voix à l'intérieur de vous est tellement forte. Elle est là pour vous dire, écoute, la parole de Dieu n'est pas suffisante, elle n'est pas autoritaire. Je pense qu'il va falloir que j'aille voir ailleurs parce qu'elle me dirige dans un endroit où je ne serai pas heureux. Si vous n'avez jamais ces combats-là, que Dieu vous bénisse, c'est génial. Mais ce n'est pas la moyenne des chrétiens, je peux vous le dire. D'accord? Et ça se manifeste chez les croyants, même chez ceux pour qui la parole de Dieu, c'est super clair que la Bible, c'est la parole de Dieu. Ça se manifeste lorsque les épreuves deviennent difficiles, lorsqu'il y a beaucoup de souffrance. D'accord? À un certain moment donné, la souffrance vient et parle très, très fort. On a vu des hommes de Dieu comme Job commencer à déraisonner par moments à cause de la souffrance. D'accord? La Bible n'est pas comparable à quelque autre livre que ce soit, car par définition, elle nous révèle, et c'est ça qu'on va voir rapidement ce matin, une sagesse différente provient d'une source différente et nous annonce un amour différent. C'est simple ce qu'on voit ce matin, mais il faut que ce soit super clair dans votre esprit, il faut que vous puissiez l'enseigner à vos enfants, il faut que vous puissiez vous en servir quand vous voulez annoncer l'Évangile à des gens autour de vous. Et tout ça, c'est dans ce passage-là, dans 1 Corinthiens. L'apôtre Paul affirme que la sagesse qu'apporte la parole de Dieu ne ressemble en rien à la sagesse de ce monde. Elle ne cherche pas à exceller dans la rhétorique et le style. La sagesse de l'Évangile, la sagesse de la croix n'est pas de ce siècle ni des chefs de ce siècle. Et donc, comme croyant, je dois arriver à un endroit où je dis, la Bible, c'est la parole de Dieu, puis j'accepte que par moment, ce que la Bible va m'amener à affirmer, ça va avoir l'air d'une folie pour le monde. D'accord? Dans mon style à moi, puis vous m'entendez le faire dans les prédications, probablement des fois vous ne le remarquez même pas, parce que je le fais constamment. Quand j'apporte un message à partir des Écritures où il y a une idée dans le passage qui est difficile à comprendre, à accepter, c'est-à-dire pour un auditeur qui n'est pas chrétien, je vais souvent chercher comment est-ce que je peux le formuler pour que, au moins, avec ce qui est écrit à l'image de Dieu, en lui-même, il puisse dire, « Tableau, il me semble que ça fait du bon sens, cette affaire-là. » D'accord? Donc, je fais régulièrement ça dans mes messages. OK? Il y a une limite à ça. C'est super important de réaliser qu'il y a une limite à ça. S'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, je ne pourrais pas me rendre à l'endroit, à moins que l'Esprit soit en train de les attirer, qu'ils soient en train de faire une œuvre dans leur cœur. Je ne pourrais pas me rendre à l'endroit, arriver à un point, ils vont toujours à un moment donné dire, « Oh, mais c'est fou ton affaire, c'est de la folie. » D'accord? Ce n'est pas une sagesse de ce siècle. Ça ne marche pas. Donc, par exemple, on adresse des questions sociales comme l'homosexualité, l'avortement, maintenant c'est les transgenres, tout ça. Je peux faire un bon bout de chemin avec eux, mais il y a un moment où à l'intérieur d'eux-mêmes, je viens, c'est comme si j'avais une aiguille, puis je m'en viens les piquer, puis là, bam! C'est stupide ton affaire, c'est fou ton affaire. Je le sais en dedans de moi que c'est fou ton affaire. Si l'Esprit est en train de faire une œuvre, on s'en va ailleurs. D'accord? Mais je dois accepter ça. Si je n'accepte pas que je vais être confronté à ça, je n'ouvrirai pas la bouche. Je ne le ferai pas. Je vais être mal à l'aise avec ma foi. Ma foi va être une foi privée. Je vais la garder juste pour moi. Je vais avoir de la difficulté à l'articuler avec mes enfants. D'accord? Et là, vous comprenez, on essaie ici à l'Église, dans notre manière d'enseigner, de montrer que c'est pas bêtement de dire « Ouais, mais la Bible dit ça, fait que j'ai rien à expliquer. » Non, parce que je vois très bien avec Jésus, je le vois très bien avec Paul lorsqu'il s'en va à Athènes. Il va les rejoindre là où ils sont, puis il essaie de les amener pour les amener dans la vérité, d'accord? Donc, ce n'est pas que je vais mépriser les raisonnements du monde. Je vais les écouter. Je vais essayer de les éclairer le plus possible pour leur montrer que c'est vraiment la sagesse. Mais je dois être convaincu. Je dois accepter que cette sagesse-là n'est pas une sagesse de ce monde. Parce que la sagesse qu'il y a dans le monde, oui, elle a été influencée par le christianisme. On est en Occident, on est vraiment dans une société post-chrétienne, mais une société où le christianisme a passé. Il y a 1 million de valeurs dans notre société qui, fondamentalement, ont leur origine dans le christianisme, c'est clair. Mais en même temps, ils sont en lutte, en contestation avec ça énormément, d'accord? Et donc, Paul est en train de me dire, c'est une sagesse qui vient d'ailleurs, elle ne vient certainement pas de l'intérieur de moi. Je peux juste faire un petit bout, comme on a dit avec la révélation générale, avec ma conscience. Est-ce que ça va, ça? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? J'espère que c'est quelque chose de clair pour vous. La fermeté de votre foi dépend de ça, je vous le dis. Au contraire, la sagesse de Dieu est cachée et secrète, car Dieu seul peut nous la révéler. Elle demande que Dieu vienne nous la révéler pour nous rendre sages et aptes à l'entendre avec intelligence. Donc, faisons une mise en application. Est-ce que c'est vrai de dire que probablement toutes les grandes religions de la Terre apportent certaines vérités? Est-ce que quelqu'un qui serait vraiment en désaccord lorsque je dis ça? Probablement qu'à peu près toutes les grandes religions de la Terre apportent certaines vérités. Vous êtes d'accord avec ça? OK. Donc, oui, vas-y David. Ça me prendrait un micro hein, pour bien faire. Vas-y, David, parce que je ne répéterai pas tout ça, c'est pas vrai. Oui. OK, merci. Je vais le garder pour le prochain. Excellent. Vous avez entendu quand même jusque là-bas, ça allait? Désolé pour l'enregistrement, vous allez manquer ça. Tout à fait d'accord avec toi. Donc, s'il est vrai de dire que probablement que toutes les grandes religions de la Terre portent certaines vérités en elles-mêmes, est-ce que c'est justifié à ce moment-là de dire d'aller vers ces religions-là avec un respect pour la révélation qu'ils ont, qu'ils apportent? Est-ce que j'irais jusque-là à ce moment-là? Je m'en vais vers le Coran en disant, bien, je vais aller chercher les vérités qu'il y a dans le Coran. Je suis fatigué un matin, hein? Vous ne savez pas de quel bord vous devez aller? Come on, Sylvain. Mais c'est des questions importantes parce que j'entends de plus en plus les chrétiens l'articuler.
Ouais, ce n'est pas des questions faciles, mais je pense qu'il y a plein de vérités qui s'attachent à la vérité. Puis plein de vérités, on peut trouver ça partout.
OK.
Puis je crois que dans chaque religion, si tu veux vérifier un peu, si le Seigneur, par son esprit, veut dire « touche quelqu'un », il va être capable, d'après ce que lui sait, sa propre religion, tu sais, comprendre un peu plus qui est Christ, qui est rapport à son fondement. Tu sais.
OK. Fait que la ligne que je ne franchirai pas, d'accord, plutôt que de vous tendre un filet puis juste vous faire tomber dedans. Là. Oui, Serge, vas-y.
OK. Moi, je dirais que c'est possible dans ces religions de trouver certaines vérités, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'erreurs fondamentales ou bien des omissions. Il faut en sorte que si on s'engage à aller chercher la vérité, à un moment donné, on sera buté. Tu as pris l'exemple des musulmans. Je vais prendre un exemple très simple. Les musulmans aujourd'hui pratiquent encore le geste d'Abraham qui sacrifie son fils Isaac. Mm-hmm. Pour eux, c'est un geste d'obéissance à Dieu. Et ils ont perpétré ce geste jusqu'à aujourd'hui. Ils appellent ça la fête du mouton, en quelque sorte. Mm-hmm. Bon, c'est une fête de sacrifice. Aujourd'hui, en tant que chrétien, nous n'avons plus de sacrifice parce que Jésus a accompli le sacrifice à la croix. Bon, on ne peut pas dire qu'on va accepter vraiment que des musulmans aujourd'hui, vraiment, en fait, on ne peut pas s'engager à copier cet exemple parce qu'on veut signifier notre obéissance à Dieu comme les musulmans le font. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il y a certes quelques vérités, mais aussi beaucoup d'erreurs, beaucoup d'omissions fondamentales. Et il faut toujours regarder au salut. Pour moi, c'est très fondamental. Certes, il y a des vérités, mais maintenant, quand on parle du salut, c'est là où ça cloche. Et okay. Ça fait que toutes les autres vérités sont relatives.
Merci. Voici comment je vais... Merci, Serge. Voici comment je vais traiter cette question-là, puis comment je la traite dans ma compréhension. Puis pour moi, c'est clair que je suis en ligne avec le christianisme historique en faisant ça. Les vérités que je vais trouver dans d'autres religions, dans d'autres révélations... Pour ceux qui ne me voient pas, je suis en train de faire des guillemets. Ces vérités-là viennent davantage de la conscience humaine, viennent davantage de ce que chaque être humain a été créé à l'image de Dieu. Je ne peux jamais arriver à un point où je vais dire, « Ah, Dieu s'est révélé en partie par les prophètes. » Là, c'est important. Là. C'est là que je deviens fou. Là. Comprenez? Pour la sagesse des hommes, là, je deviens fou parce que je veux faire quelque chose. Je vais dire que Jésus est unique, que la Bible est unique, puis je vais rejeter toutes les autres. Toutes les autres. Jamais je vais arriver à l'endroit où je vais dire, finalement, peut-être que Dieu s'est révélé un peu à travers Mahomet. Puis Dieu parlait à travers cet homme-là. Non, les vérités que je vais trouver à l'intérieur de ces croyances-là, et mon voisin qui a une conscience humaine qui a été créée à l'image de Dieu pourrait aussi les énoncer. Ou bien il va avoir des relents... La révélation des Écritures. Alors, Mahomet, ben, c'est ça, quand tu lis le Coran, tu vois bien qu'il y avait un peu, très peu, mais un peu de culture chrétienne. Puis ça a transparu à travers le Coran. Mais voyez-vous, les saintes Écritures sont nécessaires pour connaître Dieu et elles seules ont été inspirées par l'Esprit de Dieu. Oui, Stéphane. Juste une seconde.
L'autre aspect, c'est de considérer la révélation de la Bible comme étant complète. À la mesure où elle est complète, qu'est-ce que j'ai à aller chercher à droite, à gauche, des vérités qui sont déjà dans la Bible? Bien souvent, on me fait dire, ah oui, c'est vrai, la Bible dit quelque chose de semblable à ça. La Bible, la révélation de la parole de Dieu est complète. Alors, même si à droite, à gauche, puis dans une sagesse humaine, puis dans le Journal de Montréal, on peut trouver de la super sagesse des voix de M. Boccoté, je veux dire, je n'ai pas besoin d'aller chercher ça puisque la parole, la révélation est complète.
Oui. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Lorsque j'essaie de faire la nuance ici entre les vérités que je sens dans mon cœur, puis elles sont conformes avec la parole, c'est Dieu qui me les révèle, j'ai été créé à l'image de Dieu, mais en même temps, il y a une limite à ça. Puis je vais voir ces choses-là lorsque je vais jaser avec mon voisin, lorsque je vais lire des écrits hindous, lorsque je vais lire Confucius, je vais trouver des trucs où je vais dire, « Boy, c'est vrai ce qu'ils viennent dire là. » Mais la conscience humaine me permet de faire un bon bout de chemin. Ils peuvent avoir attrapé des choses. C'est un pas que je ne franchirai jamais, de dire, « Il s'agit d'une autre révélation spéciale de Dieu. » D'accord? J'irai jamais jusque-là. Parce que la parole de Dieu est suffisante et complète, comme Stéphane vient de le dire, mais parce que la parole de Dieu est le seul livre qui a été inspiré par Dieu. Oui, Charity.
OK, je comprends complètement ce que vous voulez dire, Stéphane, et surtout Pasteur, en voulant dire qu'il y a un pas qu'on ne peut pas franchir. Mais je ne vais pas me sentir coupable de dire... Ce que j'aime quand je vois quelque chose dans le Coran qui rejoint la Bible, je pourrais franchir aussi le pas de dire, est-ce que vous voyez les ressemblances humaines qu'on a déjà? Est-ce que vous voyez qu'on n'est pas si différent? Parce que ça me réjouit le cœur quand même de dire ça, là, puis de dire qu'il y a d'autres cultures qu'on peut dire, wow, c'est encourageant de voir qu'il y a une base humaine au lieu de dire, ouais, on est les seuls, puis on est tellement seuls au monde. Puis,
ouais.
Tu sais, c'est aussi de voir la possibilité de Dieu qui peut travailler cet esprit-là, puis c'est ça. Fait que là, je prie dans ce moment-là, Esprit Saint, travaille ça, là, cette ressemblance.
Oui, oui. Je suis d'accord avec toi, Charity, dans le sens que c'est pour ça tout à l'heure que j'ai cité Mathieu Boccoté. D'accord? On a tous été créés à l'image de Dieu, et donc lorsque je vais être en train d'échanger avec quelqu'un, je ne suis pas en train d'aller devant mon ennemi, puis chaque fois qu'il ouvre la bouche, je vais le trouver en défaut. Ça serait vraiment stupide de ma part. Ce n'est pas ça la réalité. Et lorsque je vais parler, par exemple, il y a plusieurs années, j'ai eu plusieurs rencontres avec un jeune homme musulman, puis on échangeait ensemble. Puis j'ai dit, moi, je vais te présenter la Bible, toi, tu vas me présenter le Coran. Puis on a vraiment eu du bon temps ensemble. Mais c'était très clair dans sa tête à lui, puis c'était très clair dans ma tête à moi qu'on avait un agenda. D'accord? L'agenda n'était pas caché du tout. Son agenda, c'était de me montrer que la Bible est incomplète, puis que le Coran est venu compléter, surtout que la Bible est pleine d'erreurs, puis pleine de mensonges parce qu'elle a été falsifiée. Puis mon agenda à moi, c'était de lui montrer que ça, c'est la parole de Dieu, puis le Coran, c'est un truc qui a été construit par un monsieur qui n'avait pas de révélation divine, non seulement ça, mais qui ne connaissait pas bien le christianisme et le judaïsme à l'époque où il en parlait même. D'accord? Alors, les vérités que je vais entendre, qui vont résonner lorsque je vais parler avec les gens qui vont avoir dans d'autres religions, me rappellent qu'on a tous été créés à l'image de Dieu. Et donc, ça, c'est un point de contact, c'est un point de communion. Mais lorsque je m'en vais vers eux, je ne franchis pas le pas de dire « L'Esprit de Dieu a parlé à travers d'autres prophètes. » Puis peut-être que ce n'était juste pas tout à fait clair, parce que je dois me rappeler qu'est-ce que Dieu fait avec le faux prophète. D'accord? Il le maudit, il le met à mort. Et donc, lorsque je vais aller vers une pseudo-révélation qui dit des vérités puis qui, après ça, vient détruire l'Évangile, je suis en présence d'une fausse prophétie. C'est ça qui se passe, d'accord? Et donc, ça, je vais le garder à l'esprit. Puis c'est vraiment important parce que Don Carson, tiens, je vais faire un autre plug pour la conférence de Sola. Lorsque Don va adresser la question de l'intolérance, de la tolérance, c'est ça qu'il s'en va adresser, d'accord? Une société qui veut se voir très, très tolérante, mais à partir du moment où tu traces une ligne, elle devient très intolérante envers les gens qui tracent des lignes. D'accord? Samuel, je vais te donner une petite intervention, puis on va filer avec la leçon. Vas-y.
Il faut quand même se dire que ben, je ne suis pas contre le fait de voir d'autres religions comme par curiosité, pour la culture, mais il faut quand même se dire que le diable même utilise des vérités pour nous mener vers le mensonge. Et justement, même, je pense que tous les mensonges sont basés sur certaines vérités. Et ça, ça fait que quand on va voir ce genre de culture-là qui sont pas la révélation de Dieu, ben il faut y aller avec vigilance.
Oui, c'est ça, il faut y aller avec discernement. Puis, comme je vous dis, mon point de départ, c'est comment je regarde ça. Je vais aller dans ce dialogue-là pour trouver des points de contact à travers des choses qui résonnent avec la parole de Dieu. Ça va jusque-là. Mais je ne franchis pas le pas de dire, je vais aller chercher une révélation de Dieu dans ça. Et au nombre qu'on est ce matin, là, il y en a 3-4 ici, vous dites, je ne suis pas sûr, je suis d'accord avec toi, Yannick. Je vous le dis, là. C'est super important que vous adressiez cette question-là parce que vous vous portez en faux, d'accord? Avec cette vision-là, vous êtes en désaccord et avec Jésus-Christ, et avec les Écritures, et avec tout le christianisme historique. Mais cette pensée-là est super commune chez les protestants maintenant, d'accord? Vous irez voir maintenant, il y a des départements de sciences religieuses, des départements qui originalement étaient des départements de théologie chrétienne, sont maintenant des départements de sciences religieuses. On étudie le phénomène de la religion plutôt que d'étudier la parole de Dieu pour connaître Dieu. Ça ne me trouble même pas, ça. Ça ne me trouble pas parce que ce n'est pas une sagesse qui vient des hommes, c'est une sagesse qui vient de Dieu. S'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, c'est ça qu'ils peuvent faire de mieux. D'accord? C'est terriblement condescendant, hein, ce que je dis là. C'est la vérité. C'est ça, la parole de Dieu. Il faut que je sois capable de vivre avec ces affirmations-là que j'ai à faire. Autrement, Donnez-vous une génération, vous n'aurez plus de message à prêcher. Vous aurez plus les... Votre message, ça va être « Alléluia, Kumbaya, Seigneur, on sème tout le monde, tu crois ci, tu crois ça, la vérité dans ton cœur, tout est beau. » Puis on va être redevable à Dieu lorsqu'on va se présenter devant lui, parce qu'il va dire « non, c'est pas de même, ça marche. » On avance encore. Donc, c'est une sagesse différente, c'est une sagesse qui n'est pas de ce monde. Au bas de la page 2, voici comment Kevin DeYoung résume un petit peu ça. Toute vérité est une vérité divine. D'accord? Si je regarde le Coran, puis il y a une vérité qui est là, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. La vérité, Dieu est vérité, c'est la vérité, ça va. Mais toute vérité pour le salut est une vérité révélée. Alors, pour être sauvé, là, j'ai besoin que Dieu se révèle. D'accord? La sagesse de Dieu est éternelle, alors que la sagesse de ce monde est jeune et passagère. Et elle peut être connue seulement et seulement si Dieu nous la révèle, car il en est la source. Il s'agit donc d'une source différente. C'est une sagesse différente, aussi une source différente. Tout le propos de la lettre aux Corinthiens est que Dieu seul peut véritablement nous parler de Dieu. Dieu est le seul qui peut révéler Dieu. C'est le seul. Donc, humblement, je vais aller vers la parole de Dieu pour que Dieu se révèle à moi. Ça va résonner avec des choses qui font plein de sens en moi. Mais je ne connaîtrai pas véritablement Dieu s'il ne se révèle pas à moi. 1 Corinthiens 2:11, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Maintenant, on va juste adresser quelque chose ici qui touche plusieurs chrétiens. Finalement, je m'allonge pas mal dans cette leçon-là. On adresse des questions un petit peu philosophiques, mais que vous allez côtoyer chez les chrétiens aussi, d'accord? Et ça, c'est un des éléments que vous allez rencontrer. Regardez bien ce que Paul dit à partir du verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Je vais tout de suite au verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Est-ce que Paul, ici, lorsqu'il est en train de dire ça, c'est juste une question, répondez pas, une question rhétorique. Est-ce que Paul, ici, est en train de parler du fait que tous les chrétiens ont reçu l'Esprit de Dieu et que donc tous les chrétiens saisissent toutes ces choses-là? Non. Paul est en train de parler ici de cette révélation qui a été donnée aux apôtres, à ses compagnons d'œuvre, à ceux qui devaient apporter la vérité. C'est vrai que tous les chrétiens ont l'Esprit de Dieu, d'accord? Mais un tout petit peu plus loin, Paul va parler de cette révélation que les chrétiens n'ont pas reçue. Regardez bien chapitre 3. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Ah, des gens qui ont reçu l'Esprit de Dieu, c'est des enfants en Christ, mais pourtant encore des enfants en Christ charnels qui ne comprennent pas les choses spirituelles. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. Et donc, Paul est en train de faire référence ici lorsqu'il dit qu'ils ont eu ces révélations à ce que Jésus avait annoncé dans Jean, lorsqu'il avait dit « J'ai encore d'autres choses à vous faire connaître, mais c'est mon esprit qui va vous les faire connaître. » D'accord? Et ça, c'est quelque chose d'important parce que j'ai vraiment aimé ce que Kevin DeYoung fait ici en partant avec cette déclaration-là de Paul, lorsque Paul dit « Mais nous, on n'a pas l'esprit du monde, on a l'esprit de Dieu. » Kevin DeYoung, il dit, OK, donc il y a bien des chrétiens qui pourraient dire, ben oui, j'ai l'Esprit de Dieu. Et comme j'ai l'Esprit de Dieu, des fois, il y a des choses que je sais que Dieu me révèle, puis ce n'est pas si important que ça, que ce soit conforme avec ce que les enseignants de la parole de Dieu disent. Je ne suis pas obligé d'être d'accord. Maintenant, tu as le droit d'être en désaccord avec celui qui enseigne la parole de Dieu s'il n'enseigne pas la parole de Dieu. D'accord? Tu n'as pas le droit d'être en désaccord avec celui qui enseigne la parole de Dieu s'il enseigne la parole de Dieu. Donc, comme les chrétiens de Béry, tu peux regarder si ce que j'enseigne, c'est conforme aux Écritures. Mais jamais, jamais, le Saint-Esprit qui est en toi va te dire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Jamais. Et moi, j'ai parlé avec des chrétiens, hein, en tout cas, qui se disent chrétiens. Le Saint-Esprit leur dit d'autres choses que la Bible leur dit. On n'est pas tellement loin dans ce cas-là de la petite voix intérieure que possède celui qui ne connaît pas Jésus-Christ. Voyez-vous? Paul, dans le passage ici, pour vraiment le voir, là, c'est parce que je manque un petit peu de temps, pour vraiment le voir, prenez le temps de lire tout le chapitre 2, le début du chapitre 3. Paul est en train de parler, il fait vraiment une distinction. Éventuellement, il va parler de l'esprit qu'il y a dans tous les chrétiens, mais là, on est à Corinthe, à cet endroit où chacun reçoit des révélations qui le distancient de la parole de Dieu, d'accord? C'est une église pêle-mêle avec toutes sortes de belles révélations, pseudo-révélations. Et Paul est en train de dire ici, non. Ce qu'on vous apporte, c'est une sagesse qui ne vient pas de nous, c'est une sagesse qui ne vient pas des hommes, qui ne vient pas de ce siècle, qui nous a été donnée par l'Esprit de Dieu. Et si vous ne comprenez pas ces choses-là, peut-être que là, vous êtes enfant de Dieu, mais vous êtes encore des bébés dans la foi. Vous êtes encore des enfants dans la foi, d'accord? Et donc, il m'est arrivé de jaser avec des gens où je devais leur dire, je comprends que tu ne comprends pas ce que je te dis là, mais c'est parce que tu es profondément immature spirituellement. C'est à cause de ton immaturité spirituelle que tu ne saisis pas ces choses-là. Certaines d'entre elles se sont levées et sont parties. D'accord? Puis, des fois, j'ai besoin de me le faire dire à moi aussi, vous comprenez? Je ne suis pas au-dessus de ça moi-même. Donc, j'ai besoin des fois que des gens me disent, non, Yannick, c'est ta chair qui pense pas l'Esprit de Dieu. Là. Ça ne fit même pas avec la parole, comment tu raisonnes là. D'accord? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair pour vous? Oui? C'est super important. Parce qu'autrement, il n'y a plus vraiment de différence entre nous et le monde avec cette espèce de petite voix intérieure. Donc, c'est Jean 16 que je citais tout à l'heure. Vous l'avez à la page 3 lorsque Jésus a dit qu'ils allaient avoir une révélation. Je m'en vais à la page 4. Ainsi, la sagesse à laquelle Paul fait référence est une sagesse objective, définie, révélée aux apôtres, non pas une révélation personnelle et subjective. D'accord? Alors, c'est vrai que dans le monde, sans le christianisme, on va rencontrer des gens qui vont parler de cette espèce de vérité qu'ils portent en eux-mêmes, mais avec beaucoup de piétisme, dans une église évangélique, on peut rencontrer quelque chose de similaire, où cette personne-là est tellement connectée avec le Saint-Esprit qu'elle a ces révélations-là dans sa communion avec Dieu. Mais finalement, tu l'écoutes puis tu vois que la parole de Dieu ne la guide pas beaucoup. D'accord? Et là, il y a vraiment des questions sérieuses à se poser. En résumé, nous avons besoin de la révélation de Dieu pour le connaître. La seule révélation divine, certaine, parfaite, finale et salvifique, donc qui peut sauver, se trouve dans les saintes Écritures. Ça ne se trouve pas en nous, même si j'ai l'Esprit de Dieu en moi. L'Esprit de Dieu, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire résonner, il va venir illuminer les yeux de mon cœur pour que je voie la sagesse divine dans les saintes Écritures. C'est ça que l'Esprit va faire. Il va faire d'autres choses aussi, il va me guider, il va faire bien d'autres choses, mais en termes de révélation, c'est ça qu'il va faire. Et nous arrivons enfin à l'aspect le plus important de cet attribut de la parole de Dieu, de ce beau passage de l'Épître aux Corinthiens. Le but de cette révélation est de nous faire connaître la miséricorde de Dieu et que nous soyons sauvés. Le but de tout ça, puis ça c'est important lorsque je veux témoigner, lorsque j'enseigne mes enfants, c'est pas une vérité froide, c'est pas une vérité abstraite, c'est une vérité qui conduit au salut. J'ai besoin de comprendre que la sagesse de la parole de Dieu ne vient pas de ce monde, elle ne vient pas de moi. J'ai besoin de comprendre que la source, ce n'est pas moi-même, parce que j'ai besoin d'entendre parler d'un amour qui ne vient pas de ce monde. J'ai besoin d'entendre parler d'un amour que je ne peux pas connaître par moi-même. Et définitivement, lorsque je parle avec les gens, mais je me plais à aller faire la démonstration que l'amour qu'on trouve dans la parole de Dieu qui nous révèle l'évangile de Jésus-Christ, ça, je ne vais pas le trouver dans d'autres religions, nulle part. Alors, si dans d'autres religions, j'entends l'écho de certaines vérités, je ne vais pas trouver l'évangile, par exemple. Je ne vais pas trouver l'évangile. Ce Dieu qui vient se livrer pour le salut des hommes, qui ne méritait pas ça, qui était rebelle, qui venait eux-mêmes, qui l'ont eux-mêmes crucifié, alors qu'il venait pour les sauver, ça, je le trouverai nulle part ailleurs. J'ai fait mention il y a quelques semaines d'un documentaire qui a été tourné par un chrétien, un heureux naufrage, qui fait un petit peu des observations, des impressions, disons, sur l'histoire du christianisme ou de la foi au Québec, tout ça. Et puis, c'est Denis Arcand, le réalisateur cinématographique, là, qui fait des films parfois discutables. C'est lui qui dit, il me semble que c'est lui qui dit ça, il dit, l'amour tel qu'il est conçu dans la Bible, il n'y a aucune religion de la terre qui nous le fait connaître. Il y a juste le christianisme qui nous présente cet amour-là où c'est sans intérêt complètement, c'est vraiment de me donner complètement pour l'autre en me sacrifiant. D'accord? Et donc, cet amour-là est un amour différent que seuls les Saintes Écritures vont nous révéler. Au milieu de la page 4, et on va terminer pas mal sur ça, comme Kevin DeYoung le souligne, lorsque nous parlons de spiritualité, nous pouvons bien souvent penser à la méditation, la contemplation, de grandes expressions de louange. Mais toutes ces choses, Jonathan Edwards les appelle des non-signes. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Montez juste deux, trois lignes plus haut, 1 Corinthiens 2:9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. La révélation de Dieu, la vraie révélation, nous fait connaître un amour différent. Jonathan Edwards, c'est un monsieur qui a assisté à un des plus grands réveils dans l'histoire de l'Église. Et pendant qu'il prêchait, le réveil est en train de s'opérer, puis il prêchait l'Évangile fondamentalement. Prêchait l'Évangile, prêchait le jugement, prêchait la grâce, prêchait le salut, tout ça. Puis là, il y a toutes sortes de manifestations qui ont commencé. À un moment donné, il y a une espèce d'engouement. C'est devenu pas mal charnel, la patente, mais tu avais du monde qui tombait par terre, qui s'accrochait après les colonnes pour ne pas tomber dans le feu de l'enfer, puis toutes sortes d'affaires. Et puis, puis dans son traité qui est appelé « Affection spirituelle », Jonathan Edwards, toutes ces choses-là, que ce soit d'être très exalté dans la louange ou d'être prostré ou de vivre des émotions intenses ou toutes sortes de choses comme ça, lui a appelé ça des non-signes. Toutes ces choses-là ne sont pas des signes d'une œuvre spirituelle. Ils peuvent accompagner une œuvre spirituelle, mais ce ne sont pas des signes d'une œuvre spirituelle. Jonathan Edwards disait, ce qui est un signe d'une œuvre spirituelle, c'est lorsque mon intelligence est saisie par la révélation de Dieu et que je saisis la croix de Jésus-Christ, que mon cœur est disposé à la repentance, que j'entre entièrement dans la grâce, que j'entre entièrement dans la paix, que mon cœur est disposé maintenant à la sainteté. Ça, ce sont les signes d'une véritable conversion, d'un véritable réveil spirituel. Tout le reste, c'est des choses qui accompagnent parfois une œuvre spirituelle, parfois une œuvre très charnelle. Comprenez? Et donc, le point de Kevin DeYoung ici, c'est qu'il dit « Les Saintes Écritures sont nécessaires parce que c'est juste à travers les Écritures que je peux découvrir un amour qui est totalement différent de ce que le monde peut m'annoncer comme amour, c'est-à-dire l'Évangile de Jésus-Christ. J'ai donc besoin de la parole de Dieu pour dépasser ce grand Dieu, wow, qui a créé les cieux, la terre, l'univers, puis qui m'a fait comme une créature merveilleuse, puis qui a créé plein de gens autour de moi qui m'aiment, puis des gens qui ont des actes de compassion. Tout ça, c'est beau. » Mais je ne me rendrai pas à cette révélation profonde et véritable de l'amour de Dieu si je ne me rends pas à Jésus-Christ et si je ne saisis pas à quel point j'ai besoin. Donc, par exemple, dans nos cours bibliques pour les enfants ou lorsqu'on enseigne nos enfants à l'école, bien, c'est pas parce que mon enfant a compris intellectuellement l'Évangile puis qu'il peut me le réciter de A à Z qu'il a eu une œuvre spirituelle encore. Ça se peut très bien que tout au plus, je lui ai donné tout ce qui est nécessaire intellectuellement. Mais je suis à genoux puis je dis, Seigneur, viens faire un miracle. J'ai besoin que ton esprit prenne cette vérité-là et que ça devienne sa vérité à lui clairement, qu'il réalise qu'il a besoin de cet évangile-là. D'accord? Et là, j'assiste à une œuvre spirituelle vraiment. Là, j'assiste à une révélation, si on peut dire, véritable. D'accord? Ces choses-là sont pas théoriques. Je vais terminer avec cette citation de Kevin DeYoung. Ces choses-là sont pratiques. J'aime ça comment il le résume. Quatre attributs de la parole de Dieu à travers les dernières semaines. Voici comment il le résume. Un conseiller biblique peut être efficace parce que la parole de Dieu est suffisante. Un enseignant peut enseigner avec confiance parce que la parole de Dieu est claire. Un prédicateur peut prêcher avec conviction la parole de Dieu parce que celle-ci possède l'autorité de Dieu. Et l'évangéliste peut annoncer l'évangile avec empressement parce que la parole de Dieu est nécessaire. Quatre attributs qu'on a vus sur la parole de Dieu. Terminons avec cette pensée. Chaque jour, nous nous efforcerons de livrer le bon combat de la foi afin de croire vraiment tout ce que la Bible déclare en ce qui le concerne, mais surtout afin de vivre à sa lumière et marcher dans ses voies. On va terminer avec un mot de prière. La semaine prochaine, on a deux présentations missionnaires de 9 à 10 ici. J'espère que vous allez être plus nombreux encore que ce matin. Moi, j'ai hâte d'écouter ça. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Elle est suffisante, elle est autoritaire, elle est claire, elle est nécessaire, Seigneur. J'ai connu cela personnellement pour mon âme. Et Seigneur, c'est ce que je veux communiquer autour de moi aussi. Et je veux vivre à la lumière de ces vérités, à la lumière de ta parole, en ayant cette conviction très ferme à tous les jours de ma vie, Seigneur. Je t'en prie, crée en moi, comme on le disait hier soir avec la famille, crée en moi un esprit bien disposé pour marcher à la lumière de ta parole. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen.